en soi et chez soi. Une émission de Daniel Fazan.
Bonsoir et bienvenue, bienvenue au Théâtre du Dé à Eviona. Je suis devant la porte de la sortie de secours et j'entre sur la scène. Alors il y a une répétition de son, évidemment il va y avoir un spectacle. Et un spectacle avec quelqu'un que nous avons rencontré il y a un peu plus d'une année sur l'écriture de ce spectacle. Il s'appelle Noël Antonini des Peutsch. Et puis là maintenant le spectacle existe. Alors il est temps de faire à la fois le point sur ce travail. Ici un lieu tout à fait sympa. Moderne, avec il y a des choses, il y a des câbles, il y a des spots, et puis on est dans un lieu un peu off, un peu dans les coulisses, et puis un escalier qui monte aux loges. On me l'a appris en entrant ici au Théâtre du Dé à Eviona, qui est un chouette théâtre dans lequel il se passe beaucoup de choses et il y a une vraie saison. Et nous allons rencontrer Noël Antonini pour nous parler de vivre, mais mourir, ça pique un peu. Mais j'ai toujours un mal fou à me souvenir du titre de ce spectacle, Noël Antonini. Bonsoir.
Bonsoir, comment ça va?
Mais moi, je vais bien. Vivre est quoi? Vivre est incurable.
Vivre est incurable, c'est mourir qui pique un peu.
Mon Dieu, je m'assieds à côté de vous sur votre... Vous avez fait des photos, là?
Ouais,
de qui?
Je suis en train
Quand
de...
je montais?
Ouais, c'est vous, je suis
non,
en train de...
Non, on voit ma tête avec ma calvitie.
Oui, mais quand même, hein, ça, faut porter son âge, et voilà, c'est votre calvitie. Moi, j'ai la mienne que j'arrive encore un petit peu à camoufler. Mais voilà, donc, hop, j'avertis tous mes...
Vous êtes un vilain aussi.
Alors là, je publie sur ma page Facebook, hop, enregistrement live de la future émission intérieure avec Daniel Fazan.
Ah, vous êtes méchant parce que j'avais quand même d'autres images qui étaient peut-être éventuellement un peu mieux que ça. Noël Antonini, vous avez 40 ans?
Oui, j'ai bientôt. Passé 41. Non, bientôt. C'est ce que je dis, mais j'ai 41 là maintenant.
Et on s'est vu dans le Val-de-Rue pour parler de l'écriture de votre spectacle il y a quelque temps. On peut retrouver ça dans les archives de RTS La Première. Noël, c'est un gros projet sur lequel vous avez, je dirais, atermoyé assez longtemps. Je dirais même 5 ans.
Je dis 5 ans, plus de 5 ans, parce que je ne sais plus exactement quand précisément a commencé le moment où je me suis dit vraiment ok, j'écris et je pose les premières lignes. Ça a déjà commencé par souvent la pensée de me dire mais j'ai envie de faire un spectacle solo, mais quoi, comment?
Puis, parce que quand on fait partie des Peutsch et on fait partie d'un trio, quand on fait la tournée du Cirque Ny, c'est une chose, mais lorsqu'on se retrouve seul à concevoir, à prévoir et ensuite à conduire un spectacle, ça fait peur.
Oui, ça fait peur. Ça fait surtout peur à la fin quand on arrive à l'échéance et sur le plateau et pour la première. Après, ça fait peur plus ou moins parce qu'on est encore très loin et puis que ce qu'on a dans la tête et on est quand même convaincu que ça va être bien. On a des périodes de doute, mais
Terrible, hein. Vous m'avez écrit souvent, mon Dieu.
Oui, non, c'est énorme. Non, mais d'autant plus que tout était nouveau pour moi. C'est un solo, j'ai jamais fait de solo. C'est un spectacle que j'ai écrit complètement moi. J'ai jamais écrit un spectacle en entier. C'est pas de l'humour. Il y a de l'humour dedans, mais c'est du théâtre quand même. C'est vraiment différent de ce que j'ai fait avant. Donc ça se joue différemment. J'ai un gros apprentissage et encore maintenant, date après date, je travaille le faire sur le métier parce que j'améliore le spectacle de jour en jour. Et donc tout était nouveau pour moi. Et c'est ça qui était passionnant aussi. Et puis, en plus, cette écriture-là, elle va bien avec le titre de l'émission. Elle est très intérieure.
Oui, alors ça, je le sens bien. Et c'est bien ce qui m'a permis et qui m'a tout simplement donné envie de vous suivre à la fois sur 2 ou voire 3 épisodes. On va faire 2 épisodes ce soir. On est dans un lieu, un théâtre. Et je remarque une chose. Regardez Noël.
Oui, je regarde.
Autour de nous, il y a des beaux canapés.
Oui.
Il y a un tapis pseudo-persan.
Oui.
Et puis, il y a des meurtrières tout autour de nous, dans cette vieille maison du dé des Viona. Et ça veut dire que, quelque part, le public est meurtrier?
Non, pas le public, mais je pense que le valet pendant longtemps.
Mais ça fait peur, hein.
Mais moi, ça me fait peur chaque soir. Non, le public est très conciliant et très agréable. Là, tout ce dernier soir, on a vraiment partagé des très belles soirées, des très beaux moments. Et non, au contraire, je trouve que le public est rassurant. Vous êtes sûr? Parce que les meurtrières, je veux dire, il y a quand même la sensation pour vous, Noël Antonini, de quitter les putschs, de faire un travail seul, solitaire, et puis on évoquera aussi les sources de ce texte. Ça veut dire aussi que vous mettez à nu et que quelque part vous mettez en danger. C'est ça que je voulais dire avec les meurtrières.
Oui, justement, là, mais justement, les meurtrières, c'est fait pour se protéger, pour espionner l'ennemi qui arrive et pour être blindé. Et moi, justement, avec ce spectacle-là, je retire tous les blindages et je pose. Ça fait un peu pathos de dire ça, mais je pose mon cœur sur scène. Oui, je pose quelque chose de la vie, de vivant et qui appartient aux autres. Quand les gens viennent, ils partagent aussi avec leur vécu. Mais ouais, c'est très intime. Il y a certaines personnes même qui. Il y a une dame qui m'a dit à Saint-Timé, m'a dit mais j'ai adoré, hein, mais j'étais mal à l'aise, hein, mais vous pouvez pas, on n'a pas le droit, vous pouvez pas dire tout ça sur scène, ça vous appartient. Ah non, moi j'ai été mal à l'aise, mais j'ai adoré, hein, mais j'ai été mal à l'aise, mais j'ai adoré, hein.
Elle était chouette. Ah bah écoutez, elle a joué le rôle du psy.
Oui, non, je sais pas.
Oui.
Oui, vous pensez?
Je verrai le spectacle tout à l'heure. J'en connais pas la teneur. On la fera, cette émission, ensemble jusqu'à minuit. Mais je vais vous voir en scène. Mais parlons de l'écriture, parce que ça a été une sorte d'investissement énorme et en même temps que vous avez partagé.
Oui, je l'ai partagé avec déjà avec une personne très importante sans qui ce spectacle ne serait jamais arrivé au bout. C'est Michèle Guigon, comédienne et metteuse en scène française que vous avez reçue, si je me trompe, il y a quelques années dans votre émission.
Et qui a été une metteuse en scène. Je déteste metteuse, mais metteuse en scène...
Elle veut que ce soit
metteuse. Ah, elle veut. Alors, si elle veut, on suit toutes ses indications, évidemment, puisqu'on est mis en scène par elle. Et que Michèle Guigon fait un travail formidable, mais en amont. Lorsqu'elle a mis en scène, par exemple, la revue de Neuchâtel, vous y étiez et vous en étiez. Et en même temps, on sait le rôle fondamental qu'a une metteur en scène.
Ben alors, elle a fait, il faut dire, si on veut juste expliquer, elle devait faire la mise en scène complète. Et elle a fait tout un travail d'abord pour moi qui était de l'accompagnement d'écriture, parce qu'un bout d'un moment, moi, je n'arrivais pas, j'avais écrit toute une première partie, je n'arrivais pas à aller plus loin. Et un jour, je l'ai vue sur scène, je l'ai revue à Vidi, et quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh, mais bien sûr, c'est elle. Et on a causé après, parce qu'on se connaît bien, et je lui ai dit, mais voilà, j'ai ce projet-là, et je n'arrive pas à aller, je sens bien qu'il faut aller ailleurs, plus profond, dans une deuxième phase d'écriture, je n'arrive pas à y aller tout seul. Elle m'a dit, on voit les textes, j'ai envoyé, et on s'est
mais
rencontré.
C'est psy, ça.
Oui, non, mais alors, vous connaissez Michèle Guigon, c'est une amoureuse de la vie, elle est très philosophe. Donc voilà, on peut l'écouter sur France Inter, ses chroniques, là, dans l'émission On va tous y passer. Elle est incroyable et elle m'a justement guidé. Elle a été, moi j'aime dire ça, je trouve que c'est une sage-femme, une femme sage, elle était une sage-femme pour moi.
Elle vous a accouché de vous-même.
Elle m'a aidé à accoucher de moi-même, en tout cas, aller au bout de ce texte, aller dans des endroits où moi, je n'arrivais pas à aller tout seul. Et un jour, elle m'a dit, mais Noël, toi, t'aimes pas beaucoup souffrir. Et c'est vrai, je me protégeais. Et elle m'a aidé, elle m'a guidé à des endroits où j'ai pleuré devant mon ordinateur en écrivant, quoi. Voilà. Et après, par rapport à la mise en scène, il se trouve que Michèle a malheureusement quelques soucis de santé.
Et on pense très fort à elle.
Et on pense très fort à elle. Et elle est en train de se battre là. Et on croise les doigts, vraiment. On lui envoie des bonnes énergies. Mais du coup, elle a mis sur le coup Nathalie Grosvin, comédienne et metteuse en scène aussi française, et qui est une amie à elle. Et on s'est entendu à merveille. Et Nathalie a pris le relais. Michèle a toujours été là. Elle a toujours suivi Nathalie. Lui faisait des retours, des répétitions. Etc.
C'est une équipe de salle d'opération d'accouchement, en quelque sorte. Oui, ouais. Il y a deux dames. Oui. Il y a deux sages-femmes.
Mais oui, il y avait deux sages-femmes et elles ont fait un boulot formidable. Et je les en remercie. C'était une longue aventure fatigante et astreignante, mais quel beau chemin. Je suis très content du résultat qui pour moi n'est pas encore fini, parce que là le bébé est né, mais il faut soir après soir que je le fasse grandir, et il grandit bien pour l'instant.
Alors il faut le mettre dans le bain. Là, justement, dans les loges, vous êtes dans le bain. Je vous attrape combien, 40, 50 minutes avant la scène. Dans quel état êtes-vous, Noël Antonini, lorsque vous prenez votre spectacle en main et en bain? Contrairement à ce que je faisais avant avec mes deux compères Peutz, quand on jouait Fernand Ambroise et Maurice, qu'on joue encore, mais moins souvent, on est un peu en stand-by là, parce qu'on est tous sur des projets différents. Contrairement à ça, là, je me sens toujours chaque soir beaucoup plus fragile, beaucoup plus... Là, en l'occurrence, en plus, on a beaucoup, beaucoup joué ces jours et je suis fatigué. Mais c'est très bien parce que c'est une fatigue qui me met dans ma fragilité et qui me permet... Nathalie me disait, mais c'est très bien, prends cette fatigue. Prends-la, elle va t'aider. Amène cette fragilité, cette fatigue sur scène et fais-en quelque chose de positif, qui nourrit le spectacle et la fragilité que je montre dans ce spectacle-là.
Donc, fais-en. Max. Mais pas un max, justement. Il faut jouer sur la retenue aussi.
Alors, c'est tout un dosage, justement, dans le spectacle. Mais il y a diverses parties. Vous verrez, il y a des parties où je suis en train de discuter avec le public et on est dans une relation de partage et de discussion. Puis, il y a des parties plus sketch. Et puis, il y a différents niveaux de jeu. On surfe toujours et on passe de moments très drôles à tout d'un coup, tac, des moments beaucoup plus poignants. Et c'est... les gens me disaient... on rit, on pleure en même temps. On rit, mais on se dit... Oh, mais je devrais pas rire là. Enfin, ça bouscule les gens, ça les fait travailler et voilà. Donc, et puis après, c'est une heure de spectacle. Et Michel me disait, mais il faut aussi que tu apprennes à tenir la distance. C'est comme en sport, quoi. Faut
arriver. Aïe, aïe, aïe.
Oui, il faut arriver du début à la fin et gérer sa fatigue, son. Et ça, c'est ça aussi, c'est un apprentissage tous les soirs. Il y a des coups de mou des fois dans le spectacle et voilà. Donc, c'est vraiment tout un apprentissage chaque soir et c'est une aventure merveilleuse.
Alors, il y a un musicien qui a participé à ce spectacle avec quelques... je suis en train de tomber du fauteuil.
Si je me lève du fauteuil, vous êtes appuyé sur le dossier.
Je tombe, appuyé sur le...
Votre vie dépend de moi.
écoutez, il y a un musicien local, Pascal oui. Rinaldi, qui a fait une musique pour votre spectacle. Alors, on va l'écouter parce que...
Une de ses créations.
Une de ses créations. Ouais. C'est Mystère et boule de gomme. C'est une chanson qu'il a créée avec notamment Ludiane Pivoine. Pascal Rinaldi.
Où va la nuit quand vient le jour? À quoi tu penses après l'amour?
Où vont tes rêves quand tu t'éveilles? De deux choses l'une, l'autre, le soleil.
Quand commence le conte à rebours? Qui pèse le contre et le pour?
Combien de joie pour tant de peine? Et quel est l'âge du capitaine?
J'en sais rien, mystère et boule de gomme. Noir et blanc, dans le fond, c'est tout comme. Plus j'en sais, moi je crois en savoir. Tant qu'il reste des questions, il y a de l'espoir.
Comme en forever, never more, vivre sans regret ni remords.
Les morts font-ils des folies de leur corps?
Quand elle s'ennuie, la mère Noël met-elle des dessous en dentelle?
J'en sais rien, mystère et boule de gomme. Noir et blanc, dans le fond, c'est tout comme. J'en sais, moi je crois en savoir. Tant qu'il reste des questions, il y a de l'espoir. J'en sais rien, mystère et boule de gomme. Noir et blanc, dans le fond, c'est tout comme. Plus j'en sais, moi je crois savoir.
tant qu'il reste des questions, il y a de l'espoir. J'en sais rien, mystère et boule de gars, noir et blanc, dans le fond, c'est tout comme. Plus j'en sais, moins je crois en savoir. Tant qu'il reste des questions, il y a de l'espoir.
C'était le musicien de l'étape, ici au musée du D, ouais. au musée. Pourquoi je dis musée ? Parce que vous êtes vieux ?
J'ai l'air d'un vieux bibelot. déjà.
Moi aussi, au théâtre du D, ici à Eviona, en Bas-Valais, et avec Noël Antonini pour la création de son spectacle. Pas la création, mais enfin, c'est la répétition. C'est constamment une répétition. Vivre est un...
Est incurable.
Yes,
c'est mourir qui pique un peu. Ça va l'Alzheimer ?
Non, mais ça va. Non. C'est vivre est incurable, parce que j'arrive pas à mettre ce mot dans la bouche. Pour moi, vivre, c'est vivre. Et puis, voilà. Mais mourir qui pique un peu, ouais, ça, je le sens très fort.
Vivre est une maladie fatale à tout le monde dont on ne peut pas guérir. Vivre est incurable, mais c'est mourir qui pique un peu.
C'est mourir, c'est votre papa qui meurt. Vous avez 3 ans. Et ça a déterminé votre vie.
Ça l'a déterminé, évidemment.
Et le spectacle.
Oui, alors du coup, le spectacle part de cet accident de mon père quand j'ai 3 ans et demi et le fait que je le perde. Et du coup, qu'est-ce que ça a influencé dans ma vie? Comment j'ai grandi à travers ça? Quels ont été les manques? Quels ont été les plus? Et en fait, en partant de la mort, tout le long du spectacle, on parle de la vie, de grandir, de trouver sa place d'homme sans repère d'homme.
Ça a été si dur?
Mais oui et non, c'est-à-dire que non, moi je crois que moi-même j'ai eu une force pour me construire avec ça
parce que, excusez-moi, Noël Antonini, je veux pas vous condamner, vous l'avez déjà été une fois par la perte de votre père, mais quand on perd son père à 3 ans et demi, on s'en rend même pas compte, excusez-moi, ou pas, non, oui.
Alors, premièrement, je pense qu'on s'en rend compte parce qu'on ressent les choses dès qu'on est né. Et puis après, il y a qu'est-ce que font les gens autour au moment où ça arrive avec vous?
Ah, ils vous entourent, ils vous consolent, ils font naître un chagrin que vous n'aviez peut-être même pas, dont vous n'aviez peut-être même pas conscience.
Là, en l'occurrence, je sais qu'il y a quelque chose qui a peut-être été sclérosant, c'est qu'on m'a surprotégé. Je ne suis pas allé à l'enterrement, par exemple, et je pense que c'est... En revenant en arrière dans l'écriture et tout, j'ai réalisé que toute cette protection, du coup, m'a empêché de traverser et de traverser même à 3 ans et demi.
Un deuil.
Et donc voilà, il y a ça. Puis après, il y a la suite. C'est-à-dire que ça veut dire que le père soit mort ou pas, etc. Mais il y a l'absence du père. Et donc, il y a en plus une vie de famille avec une mère et 2 sœurs. Donc, aucun modèle masculin. Et il n'y a
pas eu un modèle de remplacement.
Ben, justement, on découvre dans le spectacle que peut-être qu'il y en a eu plusieurs.
Ah.
Qu'on va picorer ailleurs, on va prendre ailleurs ce qu'on n'a pas.
Mais pas celui de Madame Maman.
Non, ah non, Madame
Maman. Oh, quand vous avez dit ça, non.
Mais non, c'est...
J'ai failli tomber du fauteuil.
Oui, parce que j'ai failli me lever et foutre le camp. Non, en effet, ma mère a continué à vivre. Elle s'est jamais remise avec quelqu'un et donc... Non, donc il n'y a jamais eu de personne proche qui a vraiment repris ce rôle-là ou cette place-là. Donc voilà.
Et on est bancal toute l'existence après ça.
Mais c'est comme je disais à Michel, je vis bien quelque part, je peux finir ma vie avec ça. C'est pas une thérapie sur scène, une psychanalyse, et c'est pas lourd. Mais oui, de toute façon, on vit toute la vie avec ce statut qu'on pourrait... On pourrait même dire de on est victime de quelque chose maintenant.
Oui, orphelin.
Oui, orphelin, voilà. Mais ça veut dire que j'ai pas fait les camps de concentration non plus. Hein, c'est pas. Alors voilà. Après, c'est vrai que moi, dans l'écriture, je me suis dit, mais à un moment donné, est-ce que ça va intéresser les gens ou qu'est-ce qui est partageable et voilà, on a écrit de manière à ce que ça résonne chez les gens. Mais c'était ma grande peur hein, au début que ce soit pas partageable. Et en l'occurrence, maintenant, avec la majorité, la grande majorité des retours que j'ai, je me rends compte que oui, les gens, ça résonne sur leur vécu. Moi, j'ai cette image-là, c'est comme ce que je mets là en avant. Moi, j'y mets une certaine distance pour qu'eux puissent trouver la place. C'est comme une note que j'envoie. Et selon qui est la personne, selon le coffre de résonance, selon son vécu, ça résonne différemment à différents endroits, mais ça touche les gens.
Alors, c'est universel, un texte de théâtre, et c'est l'importance d'un texte. Alors, j'aimerais vous dire juste, vous passer un aveu à propos d'un texte de théâtre dont j'aurais pu être l'auteur, etc. Un metteur en scène m'a dit « mais tu pourrais être tout à fait ce comédien ». Et j'ai dit « non, ça, je ne peux pas ». Et il m'a dit « mais on peut mettre en scène un Mongol ». Mon Dieu, j'ai eu peur. Après, je vais vers un autre auteur et je lui dis, peut-être que sur ce thème, je vais écrire quelque chose. Et il me dit, vas-y, écris. De toute façon, il faut que ce soit universel. Tu dois pouvoir être joué en Chine. Donc, je suis prévu et promu à une réalisation asiatique, mongole et chinois. Et le côté universel du spectacle, c'est ça. C'est la valeur d'un texte de Molière et c'est la valeur d'un texte de théâtre. Il faut que chacun dans le spectacle, enfin dans l'auditoire, se retrouve dans le spectacle.
Oui, et Nathalie Grouvin me disait, elle a travaillé tout un solo, elle le tourne encore, je crois, de Duras, Marguerite Duras, et je vais peut-être déformer la phrase parce que moi je la connais pas par cœur, mais j'ai le souvenir qu'elle me disait, mais Marguerite Duras disait que c'est en allant au particulier qu'on va vers l'universel, quelque chose comme ça. Donc c'est en se rapprochant au plus de soi-même que de l'humain, de ce qu'on est, et que on touche des choses qui sont partageables et universelles finalement, parce qu'on vit tous une vie incurable.
Je sais que le spectacle va être drôle par certains moments. Je peux vous rajouter quelque chose de Desproges qui disait de Marguerite Duras. Elle n'a pas écrit que des conneries. Elle en a filmé aussi.
Moi, le souvenir que j'ai de Marguerite Duras, c'est un livre qu'on m'a forcé à lire au gymnase, comme on nous forçait.
Et les films, quelle horreur! Mais pas tous, India Song, magnifique.
Oui, mais moi, je me souviens que j'avais pas, à cette époque-là, en tout cas, j'avais pas adhéré à cette forme d'écriture et ces phrasés, etc. Et je trouvais ça, du coup, je trouvais que ça limitait l'accès, mais bon, voilà, c'était à l'époque du gymnase et peut-être qu'il serait bien que je le relise maintenant.
Oui. Noël Antonini, je vais aller vous le lire maintenant dans la salle avec le public et nous nous revoyons au moment des applaudissements, c'est-à-dire dans une heure. Le temps d'une chanson, c'est Miossec qui va la chanter.
Il a fait une chanson d'une heure.
Non, ou non, il fait pas des chansons d'une heure, mais nous, on est capable de compresser le temps. Et puis, j'ai envie de vivre un moment fort avec vous, et je vous dirai ce que j'en pense, mais d'une manière très abrupte. Vous allez supporter ?
Moi, là, j'ai décidé, et de toute façon, c'est très clair, c'est ça que j'aimerais quand je sors avec les gens. Et je suis tellement déçu quand il y a des gens qui... Il y a quelques rares personnes qui ne sont pas rentrées dans l'histoire ou rentrer dans l'intention du spectacle.
Dans votre vie, tout simplement.
Dans ce spectacle-là. Et il y en a quelques-unes. Et jusqu'à maintenant, personne n'est venu me le dire directement. Et ça, je trouve dommage. Je prends autant, je comprends qu'on puisse ne pas adhérer à ça. Par contre, j'ai envie d'en parler. Mais il y a toujours une certaine pudeur de blesser, etc. Alors, j'ai eu énormément de compliments de toutes sortes. Mais des gens qui viennent me dire vraiment, écoute, moi, je ne suis pas rentré dedans parce que machin. Et puis, on en discute. Et c'est dommage. J'aimerais... Alors, vraiment, si c'était le cas pour vous ce soir, on en parle. Il n'y a pas de souci.
Alors écoutez, le titre de Miossec choisi par Jean-Baptiste Roumain, c'est parfait. On vient à peine de commencer. À tout à l'heure.
On a le temps.
Et je vous dis merde.
Mais merci, moi je dis merci, merci, merci.
La vie, elle a passé et on l'a comme pas vécu. Ou peut-être pas assez, pas comme on. Imaginer de nouvelles étendues, des rivières à traverser et même des fleuves en crue. C'est pas fini, on vient à peine de commencer. C'est pas fini, on peut encore se retourner. Où s'est-on ramassé? Je ne me rappelle plus. Est-ce qu'il y a bien pu clocher? À un moment, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait peut-être dû prendre le temps de souffler, de profiter de la vue. C'est pas fini, on On vient à peine de commencer, c'est pas fini. On peut encore se retourner, c'est pas fini. On peut encore se réparer. La vie, elle a passé et on l'a comme pas bien vu. Les années ont filé.
Je vous remercie beaucoup.
Bon, ben maintenant, c'est à moi de partir du côté des pendrillons, des parties noires du spectacle. Il a donné son spectacle. C'était beau. Il y avait des moments d'une grande tendresse, d'une grande sensibilité. Il monte dans les loges. Alors, je reprends le même escalier que j'ai pris tout à l'heure pour aller le rencontrer et voir dans quel état de fatigue, de don et d'épuisement, peut-être, dans lequel se trouve Noël Antonini, ici au D à Évian. À Eviona, comment ça va?
Ça va.
Et je vois presque des larmes.
Non,
y a quoi?
Non, il y a. Bah, voilà.
Le don énorme.
Non, oui, mais il y a que. Bah, c'est marrant, il y a que. Justement, c'est du spectacle vivant et que c'est un spectacle à porter à bout de bras tous les soirs, à porter à bout de bras avec de la distance pour laisser la place aux gens de rentrer dans cette histoire-là. Eh bien, ce soir, je me suis trouvé les bras fatigués. Donc, voilà, c'est...
Mais qu'est-ce qui s'est passé de particulier ce soir?
Eh bien, je sais pas. Le spectacle s'est bien passé. C'est un spectacle normal. Les gens ont eu du plaisir. Mais moi, il aurait fallu peut-être que ce soir, je sois plus centré.
Moi, je vous ai senti vraiment présent.
Oui, non, mais je suis... Alors, de toute façon, après ça, c'est ma petite popote à moi. Oui. Et on est là, dans la nuit, en intime, et personne ne nous entend. Donc, je peux dire qu'il y a des soirs... C'est comme dans la vie, il y a des jours sans. Et il y a des soirs, quand on fait du spectacle, il y a des soirs, entre guillemets, sans. C'est jamais sans, parce qu'il y a tout un travail derrière. Et les gens ont vu le même spectacle que tous les autres. Mais des fois, c'est le petit truc en plus, le petit truc qui fait que ça pétille plus, que c'est plus juste, que c'est plus au bon endroit. Mais comme nous dans la vie, il y a des jours où on est mieux et des jours où on est un peu moins bien. Et ben, je me suis senti un peu moins bien. Mais des fois, je me trompe. Des fois, c'est aussi mon histoire interne et
c'est possible.
L'extérieur. Ouais. Les retours que j'en ai après, c'est pas le cas. Et j'ai toujours Alain Boone, mon technicien, qui me fait un petit regard extérieur parce que lui le voit tous les soirs à l'extérieur. Et donc, ben là, j'ai à peine eu le temps de boire qu'on cause. Donc, j'ai même
Ah oui, c'est très direct.
Pas encore atterri, donc voilà. Mais ouais, je me sens étrange ce soir. Mais peut-être aussi fatigué parce que là, ça fait vraiment beaucoup de soirs qu'on les aligne. Et ouais, c'est un spectacle qui demande beaucoup d'énergie, mais pas que d'énergie.
Très perso, ouais. Très, très perso. Alors, il y a quelque chose que j'ai découvert, c'est Léon à l'envers de Noël. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'avais jamais imaginé ça, que votre fils... S'appelant Léon, était Noël à l'envers.
Vous ne l'aviez jamais remarqué?
Mais non, mais il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Et puis, une chose, un mot extraordinaire dans ce spectacle que vous dites à propos de votre père mort quand vous étiez si jeune, c'est « libère-moi ». Et moi, j'ai trouvé que ce mot était la clé absolue du spectacle.
Oui, mais...
Bon, il y en a plusieurs, mais...
Oui, non, mais oui, j'ai alors, il y a plusieurs endroits, c'est marrant que vous pointiez sur celui-là, mais... oui, libère-moi, et en même temps, c'est un cri sans fin, parce que c'est... Enfin,
lâche-moi!
Oui, lâche-moi, fous-moi la paix, mais c'est moi qui dois lâcher. Enfin, voilà, c'est je sais pas, il y a... Dans ce spectacle-là, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais une traversée en écrivant ce spectacle-là, mais... Dans l'écriture, j'ai réalisé que, et c'est ce que je mets aussi dans le spectacle, c'est que c'est pas en faisant ce spectacle-là que, déjà, je fais pas une thérapie pour moi. Pour moi, c'est une étape, c'est un partage par rapport à ce que j'ai vécu. Mais moi, j'ai pas forcément réglé, c'est pas en faisant un spectacle que je dis, je règle mes freins intérieurs. Je le dis à un moment donné, le caillou est toujours dans ma chaussure et je sais pas qu'est-ce que la vie va m'offrir plus loin, quoi. C'est une étape pour moi.
Puis ce soir, il y a eu un lapsus extraordinaire.
Moi, j'en ai encore fait.
Alors,
un.
Oui, vous en avez refait. Hein. La mort, la mère. Vous vous souvenez de ce moment?
Oui, je me souviens très bien.
Oh, purée. Alors, revenir de ça, c'est difficile. Rappelez-moi le passage exact, parce que moi, je l'ai retenu, mais sur le moment, je me suis dit, oh là, il part en vrille, le chéri. Et surtout, c'est exactement ce qu'il ne fallait pas dire.
Non, je dis en effet, à ce moment-là, les mois qui suivaient l'accident, j'ai régulièrement frappé ma mort, violemment. Et je voulais dire ma mère violemment. Et voilà, c'est, en même temps, au moment où je l'ai fait, moi, je l'ai beaucoup aimé, ce lapsus.
Mais c'était assez troublant, oui, en effet.
Oui, non, mais c'est un lapsus que j'ai beaucoup aimé. Qui est juste, qui révèle. Mais il y en a beaucoup de lapsus. J'en ai fait dans les répétitions, beaucoup. J'en ai fait en représentation. J'en ai fait des fois quand je me faisais mes italiennes pour moi, pour me répéter le texte, que je me disais, vaut mieux le faire en italienne. Et l'autre soir, un que j'avais fait en italienne est ressorti en spectacle.
C'était quoi?
Oh, je sais plus. Là, je sais plus. Je sais plus exactement.
C'est égal. Mais c'est fou, hein? Ces mots qui nous échappent, quand on veut dire la mort et qu'on dit la mère.
Mais c'est parce que dans ce spectacle et comme dans nos vies, quand on touche à l'intime et à l'intérieur, de nouveau, très bonne liaison avec cette émission. Non, mais quand on touche à l'intime et à l'intérieur, forcément que on a le regard sur nous, on n'a pas forcément de distance et donc du coup les choses sont très proches et se mixent et un mot pour un autre a tout un lien et donc du coup comme tout a un lien, des fois un mot vient à la place d'un autre et c'est intéressant de voir quand il y a ces lapsus-là de voir qu'est-ce qu'il y a derrière finalement.
Mais Noël Antonini, comment peut-on guérir quand on est face à Huguette? Une psy aussi,
non,
aussi
mais la pauvre
étrange,
Huguette, non,
cette,
non.
Cette pauvre chérie. Essayez, elle n'existe pas, la pauvre Huguette.
Non, je vous rassure, non, la pauvre Huguette, c'est le cas de le dire. Non, je vous rassure, Huguette est très bien, et on a partagé beaucoup d'échanges très
intéressants. Elle existe sous ce nom?
Elle existe, elle s'appelle Huguette, je te reste.
Mais la pauvre chérie.
Non, mais voilà, alors après, on est au théâtre. Donc, c'est comme Florian Guenat, mon prof de gym, lui, je donne le nom de famille, mais c'est une caricature après. Le fond, ce qui est dit est vrai. Les paroles d'Huguette ou les paroles de Florian sont celles que j'ai vraiment vécues. Mais après, c'est un sketch, c'est un personnage. Huguette n'est pas comme ça. Là, cette Huguette-là est plus un clin d'œil volontaire et très amical à un homme que j'aime beaucoup et que je crois que vous aimez beaucoup, qui est François Sylvan.
Oui,
là, quand on a essayé de créer ce personnage-là, tout d'un coup est venu en improvisation ce personnage-là. Et en le faisant à un moment donné, je me suis dit, on dirait Sylvan. Et on l'a gardé, quoi.
Sylvan, vous savez pas tout de Sylvan?
Non, je sais pas tout de Sylvan, je le connais.
C'était mon copain de classe.
Ah oui.
Mais arrêtez, chez Monsieur Pahu. Et pourquoi Madame Pahu? Parce que Monsieur Pahu.
Parce qu'il faut un Monsieur Pahu pour avoir une Madame Pahu.
par exemple. Et Dieu sait s'il avait pris la leçon.
Non, mais alors, c'est vrai que François, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. Non, c'est pas marrant du tout. Mais on devait, on avait discuté avec les Peutch pour, ils devaient faire la mise en scène de notre dernier spectacle avec les vieux. Et puis il a décliné l'invitation en hésitant beaucoup. Et puis on a compris quelques mois plus tard pourquoi il avait décliné l'invitation.
Voilà. Il avait plus que décliné, ouais, en effet.
Il avait décliné.
On écoute La Mission, c'est un groupe constitué par Catherine Ringer, ex-Rita Mitsouko, bien sûr, et deux de ex-Gotan Project, La Mission.
La noche tibia y silenciosa, desperté sobresaltada, no me pude resistir. Una fuerza casi misteriosa, como una llamarada, me empujó hacia el porvenir. Algo que venía del pasado y eran cálidos llamados, se metió en mi corazón. Bandoneón, la milonga del arrabal se escapó hacia la ciudad. Yo la vi cruzando el mar, buscando la eternidad. Profundo de un antiguo callejón y surge el eco de esta canción. La milonga del arrabal se escapó hacia la ciudad. Yo la vi cruzando el mar, buscando la eternidad. La eternidad.
C'était Catherine Ringer et puis ses copains d'ex-Gotan Project. On est dans la dernière durée de cette émission et vous allez rencontrer votre public, Noël Antonini. Vous avez joué, vous êtes peut-être épuisé. Vous avez donné quelque chose qui n'est jamais la même chose que l'on attend de soi, que les autres attendent de vous. On est satisfait jamais lorsqu'on est en scène et que l'on joue et qu'on est sur le fil comme un funambule, jamais.
Non, je sais pas, je veux pas parler au nom des autres. On n'est pas.
Pour vous.
Oui, pour moi. Alors, on n'est pas jamais satisfait. Non, il y a. Ben là, les deux derniers soirs ont été des soirs où je suis sorti. On n'est jamais complètement satisfait parce qu'on peut toujours faire mieux ou être mieux à un endroit ou le jour où je fais l'heure complète en étant. Il n'y a pas de maîtrise, on peut avoir une certaine virtuosité, mais on peut toujours faire mieux à certains moments. Et voilà. Mais comme je disais avant, il y a des soirs, par contre, où on se sent plus juste, plus satisfait, plus serein. On sent qu'on a peut-être été plus apte à partager et à plus présent et avec une énergie plus centrée. Et voilà, c'est ce que je vis ces temps. C'est des soirs avec c'est un peu les montagnes russes, quoi.
Mais c'est en vue de quoi ? C'est en vue de guérir de quelque chose ? C'est quelque chose qui va vous poursuivre toute votre existence. Ce papa mort dans un avion, brûlé un jour, et votre maman blessée. C'est quoi? Dites non, et hurlez non, non.
Non, mais c'est pas ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Il faut pas. Attention.
Je fais ce que je peux, hein.
Bah, je vois bien.
Vous parlez autrement. Mais pour compenser une blessure. C'est une source d'inspiration infinie, géniale.
Oui, mais parce que, voilà, c'est une blessure. C'est ce que je dis toujours. C'est pas, moi, j'ai pas vécu Auschwitz, des choses comme ça. Enfin, voilà, c'est pas non plus un. Ça arrive à tout le monde de perdre ses parents. Mais c'est une empreinte dans mes chairs. C'est marqueur. Et ça engendre plein de choses. Mais de nouveau, moi, ce que j'ai mis là-dedans, c'est que je pars de ça sans en faire un drame. Mais je pars de ça pour après parler de la vie, pour parler de grandir, pour parler de la confiance en soi, pour parler de qu'est-ce qu'un homme un vrai, pour parler de ma féminité, pour parler de plein de choses.
Où votre féminité, quand?
Eh bien, alors, c'est une bonne question, parce qu'à vrai dire...
Je ne l'ai pas senti fort.
Ah ben, c'est marrant, parce que je l'avais pas senti, j'avais pas mis de ça dedans. Mais j'ai une amie qui a vu le spectacle et qui m'a écrit une bafouille après, où elle me disait à quel point c'était bien et beau de voir un homme... elle a dit plein de choses, mais à un moment donné, elle disait c'était bien et beau de voir un homme... assumer et vivre et montrer sa féminité.
Fragilité, c'est pas le même mot.
Bah alors, je sais pas, elle a dit féminité.
Alors, mais elle a dit, votre copine, mais je sais pas si elle est vraiment référence.
Je me suis posé la question de me dire, mais c'est vrai.
Je vois pas ça. Moi, je vois une honnêteté dans ce que vous faites. Point. Hmm.
Mais il y en a aussi, elle a parlé de courage, d'honnêteté, etc.
Oh, elle est formidable.
Mais, oui, elle est formidable, mais je l'adore. Mais, non, mais à part ça, c'est très bien. C'est-à-dire que vous y voyez ça ou ça. Quelqu'un d'autre, il verra ça ou ça. C'est ce que je dis toujours, ou c'est ce que j'ai peut-être dit avant, je ne sais pas, mais je vois en jouant ce spectacle-là que moi, je fais une mélodie, une note, et après, selon la personne qui est en face, selon la caisse de résonance, ça résonne là, à un autre endroit, ou pas du tout. Il y a des caisses de résonance qui sont fermées. Voilà, c'est moi, je donne quelque chose et après, ça résonne selon ce qu'il y a en face.
Noël Antonini, vous faites les putschs, vous faites le cirque ni, vous faites plein de trucs dans la vie, vous faites de l'improvisation, etc. Et là, tout d'un coup, vous éprouvez ce besoin de faire quelque chose de perso. C'est quoi? C'est le but ou c'est... J'ai du mal à saisir et à comprendre. C'est relativement tardif. Dans votre perception de la vie, ce moment-là. Pourquoi ? Parce que vous êtes père ?
Je crois qu'il y a beaucoup de choses en même temps. C'est sûrement tardif aussi parce que, comme je le dis dans le spectacle, ou comme j'en fais une métaphore, jusqu'à maintenant, j'ai grandi. Et à travers ça, je me suis... forger une, pas une carapace, mais je me suis, j'ai grandi là-dessus, sur quelque chose qui m'a rendu plutôt comme quelqu'un d'assez fort. Mais maintenant, ce que je ressens à 40 ans, c'est que ce qui m'a protégé jusque-là et qui m'a aidé à grandir, maintenant commence à me freiner et me retenir.
Ah!
Et en fait, peut-être que c'est le début de se dire, à un moment donné, de regarder à l'intérieur et de se dire, ben voilà, l'échafaudage que j'ai construit pour consolider les parties plus fragiles, les parties manquantes, etc. Ben peut-être que maintenant, j'ai envie de faire un état des lieux et puis de me regarder et puis de pouvoir peut-être voir comment je peux défaire cet échafaudage-là et aller de l'avant, avancer, parce que je sens, moi, qu'il y a toujours un frein. Et ce frein, comme je le dis dans le spectacle, est en lien avec ça.
Vous êtes nu dans ce spectacle, bien davantage que dans tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant.
Ça n'a rien à voir avec les marionnettes du pénis.
non, je ne pense pas à ça, ni à Cuche, ni à Barbeza. Non, vous êtes nu de l'âme. Mais en même temps, c'est un spectacle.
Je pense que c'est ce qui dérange des gens, qui a pu déranger des gens parce que c'est très très intime et que... Mais de nouveau, c'est pas nombriliste. C'est moi, quand les gens viennent me parler après le spectacle, j'entends beaucoup de retours de parce que moi, ça m'a fait penser à ça, parce que moi, j'ai senti ça. Puis ce moment-là, là, j'ai eu une larme et peut-être quelqu'un d'autre, c'est un autre moment. Et donc ça m'a rassuré très rapidement parce que c'était ma grosse angoisse. C'était de dire, mais est-ce que si c'est pour raconter mon truc à moi et si j'arrive pas à en le disant sur scène à mettre de la distance, ça veut dire que ça n'aura aucun intérêt. Ma vie n'a aucun intérêt. Le décès de mon père et mon traumatisme par rapport à ça, et ça n'a aucun intérêt. Juste tout seul. Après, c'est comment je l'amène et comment je rends ça...
Et comment vous en sortez ? Parce que c'est ça, l'ellipse. Et c'est ça que j'ai aimé, finalement, dans l'écriture de ce texte. C'est l'ellipse, c'est le retour, c'est le retour à Léon, c'est le retour à l'orphelinat probable de ce qui nous attend tous et de nos parents qui disparaissent.
Oui, mais vous voulez quand même pas que je raconte la fin du spectacle ou bien ?
Mais je veux que vous racontiez la vie.
Je vais pas donner
et
la
vous
fin
avez
du
raconté.
Film.
Non, mais vous racontez ce que vous voulez. Mais là, je parle de l'ellipse. Et c'est bien dans l'écriture qu'existe cette force de construction dramatique.
Oui, oui, oui. Il y a un fil tendu entre le décès de mon père et la naissance de mon fils. Et c'est tout ce fil qui est tiré tout le long du spectacle jusqu'à la naissance de mon fils, qui a été une naissance particulière. Et qui a...
Vraiment ? Tel que raconté ?
Ah non, alors tout ce qui est dans le spectacle, et il y a rien qui est inventé.
Oh purée !
Ah oui, non, il n'y a rien qui est inventé.
Oh mais attendez,
j'ai pas de raison d'inventer, quel est l'intérêt ? C'est pas... Alors après, comme je disais avant, par exemple, j'ai théâtralisé les choses, mis en jeu. Huguette, la psy ou le prof de gymnastique, là, quand on est dans des parties humour et sketch, c'est des caricatures. Mais tout le reste aussi, de ce qu'il y a, tout ce qui est dit est juste les histoires sur les anecdotes sur mon grand-père ou ces choses-là. Il n'y a aucune raison de mentir. Alors, quel est l'intérêt ou quelle serait la malhonnêteté que de me mettre à nu et de raconter cette intimité-là et de la partager si dedans je trompe les gens et je dupe les gens? C'est un vrai échange. Donc dans un échange, il faut être sincère et il n'y a pas de mensonge. Je joue carte sur table.
Vous pleurez aujourd'hui ? C'est plus facile aujourd'hui de pleurer qu'avant ?
Alors, c'est marrant la question. Parce qu'il y a quelques années, il m'arrive des fois au cinéma, mais comme tout le monde, il m'arrive des fois au cinéma, dans certains films, des fois le lien est flagrant, des fois pas, mais il m'arrive que ça me fasse monter les larmes, ce que j'appelle les larmes de mon enfance, en lien avec cette blessure qui est au fond. Et il y a quelques années, je me suis dit, mais moi maintenant au cinéma, si ça vient, je pleure. Je pleure et ça peut se rallumer, je suis en larmes, je m'en fous, je n'ai plus envie de retenir ça quand c'est là. Parce que je dis ça parce que très souvent, on a chez nous en plus énormément ça, c'est-à-dire que ça ne se fait pas et on blinde, on étouffe à l'intérieur tout ça et ça fait une boule au fond.
Parce qu'on fait les garçons.
Alors déjà, parce qu'on fait les garçons, c'est peut-être ça, peut-être cette part de féminité dont elle parlait.
Exact.
Et voilà, donc non, maintenant, moi, je laisse sortir. Quand on a fait la création avec Michel Guigon, moi, je me souviens qu'elle est venue à Sion 2 jours avant la première, et on s'est retrouvés au restaurant, il y avait Michel Guigon, il y avait Nathalie Grovin, on était au restaurant de l'hôtel, il y avait des gens qui mangeaient autour. Et elle a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel. Elle avait vraiment une question parce que...
Vous étiez déjà nu ?
Hein ? Comment ça, nu ? Non.
Elle a mis le doigt. Mais non, je blague.
Mais
ils étaient à nu.
On était à nu l'un l'autre, mais surtout, elle avait quelque chose en commun avec moi. Et elle a voulu... Je ne vais pas dévoiler la discussion parce que ça nous appartient. Mais moi, je me souviens, on parlait de pleurer. Et je me souviens qu'on était là l'un l'autre et qu'on causait de ça avec elle qui avait les larmes aux yeux, moi qui avais les larmes aux yeux, et Nathalie qui était là entre les deux, et on causait, on avançait, et des gens autour. Et merde bien, enfin voilà, c'est la vie. Il y a un moment donné, allez chier, laissez sortir les choses, pleurer ou rire, ou faites traverser les choses, arrêtons d'essayer de nous protéger, quoi.
Alors c'est bientôt minuit, on va se quitter dans quelques minutes.
On dirait
minutes.
La lune de cœur, mon Dieu.
Oui, on dirait Jean-Marc Richard, ouais. C'est ça qui est formidable. Je suis toutes les personnes en une seule. Simplement, vous allez rencontrer les gens qui vont vous parler, vous questionner. Vous serez de la même manière avec eux que vous l'avez été avec moi durant ces 2 émissions d'une heure.
Oui, dans un sens, non dans l'autre. Pour préciser, c'est-à-dire que déjà, quand je sors après le spectacle, je laisse plutôt parler les gens. Après, il arrive que je donne aussi mon avis ou qu'on échange, évidemment. Mais je disais avant, j'ai lancé un son, il y a une résonance chez eux. Et quand ça ressort, les gens qui viennent me parler, que ce soit positif ou négatif, ben moi, j'écoute le son de cette résonance et j'écoute le son qui me revient. Et donc, je suis plus à l'écoute qu'autre chose. Après, évidemment, on cause quand même, je parle. Mais voilà, c'est ça, j'écoute l'écho de ce qui a été lancé. Et c'est très intéressant et c'est très touchant des fois.
Vous étiez très beau en scène.
Merci, c'est gentil.
Ça vous fait bizarre quand je vous dis ça,
mais ça veut dire
c'est
quoi,
mon côté féminin.
Oui, mais ça veut dire quoi, très beau en scène?
Ça veut dire que bah, vous captivez, quoi. Vous avez un regard, vous avez un sourire, vous avez une présence. Et puis, vous êtes beau, puis on vous suit tout le long. Puis on suit votre pensée et votre tête, et l'intérieur de votre tête.
Ben alors, ça veut dire que peut-être que de l'intérieur, c'était un jour sans, et de l'extérieur, ça ne l'était pas. Mais c'est le rôle d'un comédien, finalement, que d'être là et que de capter l'attention et que de pouvoir faire passer un message. Mais après, ben, faut pas que ça prenne toute la place non plus. Il faut laisser sa place au public sur scène aussi.
Vous connaissez un artiste qui s'appelle Fabien Tarin?
Oui.
C'est un parolier de Thierry Romanens notamment. Oui. Eh ben, c'est un formidable chanteur qui a écrit de très belles chansons. Et on écoute, pour se séparer, Rockstar. Et puis on quitte Eviona, le théâtre du Dé. Et puis merci Noël Antonini de nous avoir reçus ce dimanche soir. C'était génial.
Merci Daniel. C'est toujours un plaisir de parler avec vous et en toute intimité, au milieu de la nuit.
Et au milieu de dizaines de milliers de personnes qui nous écoutent.
Oui. Je vous embrasse tous et bonne nuit. Au revoir. À bientôt.
Bonne nuit. On écoute Fabien Tarin. Bye bye.
Si un sent mauvais, c'est pas moi qui le dis. Ils font de vilaines grimaces, c'est malhonnête. Oh, puis le bétane, c'est pas beaucoup plus joli. Les petits poumons, leur petite planète. Les petits poumons de leur petite planète, dans leur cœur à ce qui se dit. C'est un peu comme dans mon congélateur. Oh, oh, sauf qu'il n'y a pas les petits sachets. Avec des glaces à l'intérieur. Avec des glaces à l'intérieur. Soit trop tard, mais je ne suis pas.
tard.
Intérieur sur la première.
Comme tous les chanteurs, je finirai dans un ascenseur, noyé dans le coton d'un piano bar, dans des violons bidons de comptoir. Comme la chanson par cœur, catalogué au gay karaoké, à mon dernier souffle je sifflerai. Je suis à vendre sans attendre, à consommer pendant l'été. Je suis à vendre comme ça vous chante, quel important j'ai l'air d'être en vacances. Des hyper vendus pour du beurre. C'est sûr, je serai poussé au surgelé dans des caddies par mes cadets. Comme tous les chanteurs, dans les airs, dont les airs.
Sur RTS La Première, il va être minuit dans quelques secondes. On se retrouve la semaine prochaine à 23h. Avec qui? Allez savoir. Où? Allez savoir. Mais moi, je sais pas tout. Et puis, j'aime la vie. J'aime quand elle est comme ça. Bonne nuit. Il est minuit.